Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrez votre Bible, si vous voulez, au 10e chapitre de l'Évangile de Jean. Nous continuons notre étude pour apprendre à prêcher comme nous le faisons depuis le début de la semaine. Steve Lawson est ici en tant que professeur de prédication. Et nous avons eu, je ne sais pas, jusqu'à 100 jeunes hommes qui arrivent maintenant au séminaire. Nous essayons de les lancer dans la prédication explicative, et cela se passe assez intensément, car nous accueillons également certains de nos étudiants de deuxième année toute la semaine. C'est une merveilleuse opportunité pour nous. Mais quand nous leur apprenons à prêcher, idéalement, nous prenons un passage de l'Écriture, et nous développons un message à partir de cette partie de l'Écriture. Il y a un début, une fin et un milieu, et c'est d'un seul bloc. J'avoue que je suis enclin à violer ces principes. Je commence avec un message qui a un début et une fin, et il se termine le plus souvent par une série en trois parties, car en entrant dans le texte, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter des remarques qui sont si précieuses. En conséquence, nous examinons Jean 10, versets 22 à 42, et ceci est la partie 3 de notre message. Nous terminerons ce matin. Jean 10, versets 22 à 42. Et bien que ce soit un long passage, il peut être absorbé, je pense, uniquement par ces trois messages, pas de manière exhaustive, en aucun cas. Mais vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe. Laissez-moi vous le lire, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, ou le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes ? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » Maintenant, comme je vous l'ai dit ces dernières semaines, ceci est la déclaration publique finale de la divinité du Seigneur Jésus. C'est aussi la dernière invitation dans le temple, face aux dirigeants juifs, avant que Jésus ne parte pour 3 mois d'isolement, de l'autre côté du Jourdain, avec ses disciples et ceux qui sont venus à lui, comme indiqué à la fin du chapitre. En ce qui concerne l'évangile de Jean, voici le récit final de Jean sur le Christ, se déclarant Dieu, et appelant les gens à croire. Il le fait à la fête de la dédicace qui était leur célébration de la grande révolte des Maccabées. qui a chassé Antioche et les envahisseurs syriens dans la période entre les Testaments. Les Juifs la célèbrent aujourd'hui sous le nom de Hanouka. C'est lors de cet événement, en hiver, que Jésus a déclaré cette déclaration finale de sa divinité dans le temple, aux dirigeants juifs et aux gens qui y sont rassemblés pour célébrer cette grande fête. Comme je l'ai dit, cela devient, pour Jean, l'invitation finale. Comme à la fin, Jésus dit « Croyez en moi ». Depuis le début de l'évangile de Jean, le même message a été prêché. Jésus est Dieu. C'est ainsi que tout a commencé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tel est le message de Jean dans cet évangile, comme il le dit à la fin. Ceux-ci sont écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie en son nom, la vie éternelle. Croire que Jésus est Dieu est nécessaire à la vie éternelle. Si vous ne croyez pas cela, vous entrerez dans la mort éternelle et la punition du tourment éternel en enfer. C'est le message de l'Évangile. C'est le message du Nouveau Testament. Maintenant, tout au long de l'Évangile de Jean, l'apôtre identifie les épisodes de la vie et du ministère de Jésus, où il déclare qu'il est Dieu. Nous voyons tout cela en lisant cet Évangile. Il se déclare à plusieurs reprises être le « Je suis », prenant pour lui le nom de Dieu. Il revendique directement la divinité. Chaque fois qu'il fait ces affirmations, il est confronté à la colère, à l'hostilité et au rejet. Mais il continue à faire des réclamations, parce qu'il croit que c'est essentiel pour la vie éternelle. Le message que Jésus est Dieu est le message du christianisme. C'est le message du Nouveau Testament. Il est égal à Dieu en ce qui concerne sa nature. Jean dit dans le premier chapitre, « Nous avons vu sa gloire, et c'était la gloire du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Il était l'essence même de Dieu. » Les auteurs des Épîtres l'ont compris. L'écrivain des Hébreux dit qu'il est la représentation exacte de Dieu, l'image précise de Dieu. L'apôtre Paul dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Jean dit que si vous niez sa divinité et son humanité, vous êtes maudits. C'est le christianisme. Il est présenté par Matthieu comme Emmanuel, Dieu avec nous. Il est présenté par Marc comme Dieu le Fils. Il est présenté par Luc comme le Saint qui est né enfant. C'est le cœur de l'Évangile chrétien. Ce n'est pas seulement un noble enseignant, ce n'est pas seulement un chef religieux, ce n'est pas un homme hautement moral, ce n'est pas une personne dotée d'une sagesse inhabituelle. Même si toutes ces choses sont vraies, il est Dieu, et rien de moins que cela est un blasphème contre lui. Maintenant, il faut dire que les Juifs avaient tiré une conclusion différente. Ce n'est pas qu'il, à ce moment-là, avec seulement 3 mois avant sa mort et sa résurrection, ce n'est pas à ce moment qu'ils commençaient à se poser des questions sur son identité. Non, ils avaient pris leur décision bien avant, des mois avant. Cela a été enregistré lorsque Jésus était encore en Galilée. Vous vous souvenez qu'au chapitre 12, ils ont rendu leur verdict final. Ils ont dit qu'il fait ce qu'il fait par le pouvoir de Belzébul. Ils ne pouvaient pas expliquer ses œuvres, ses miracles comme naturels ou humains. Ainsi, ils savaient qu'il y avait une puissance surnaturelle derrière lui. Ils ont alors déclaré que c'était Satan, que sa puissance venait de l'enfer, qu'il était démoniaque, au plus haut niveau, qu'il était littéralement habité par Satan lui-même. C'était leur conclusion sans détour, parce que c'était une conclusion fixe. Jésus a dit, « Vous ne serez pas pardonnés, il n'y a pas d'issue. Si tel est votre verdict final, il n'y a aucune possibilité de salut. » Dans une transition très intéressante, à la fin du verset 12, Matthieu sauvegarde cela. Il les a déclarés au-delà du salut, parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion finale, qu'il était satanique. Alors, au chapitre 13, Jésus a commencé à parler en parabole. Maintenant, je veux juste ajouter un commentaire ici. Il y a une hypothèse aujourd'hui que Jésus a parlé en parabole pour clarifier les choses pour les non-croyants. En fait, vous entendez les gens dire « Nous devons parler en parabole. Nous devons être des conteurs comme Jésus. Nous devons nous éloigner de la doctrine et de la vérité propositionnelle. » et devenir des conteurs. C'est endémique, même parmi les évangéliques. Je veux rendre quelque chose très clair. Jésus n'a pas parlé en parabole pour clarifier les choses pour les non-croyants. Il a parlé en parabole comme un jugement, afin qu'ils ne comprennent pas. C'était un jugement tempéré de miséricorde. Il a dit, en entendant qu'ils n'entendront pas, comme prophétisé par Ésaïe 6, car ils ne verront pas, et ils ne comprendront pas. C'est pourquoi je parle en parabole. Il a dit à ses disciples, « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Comment les connaissait-il ? Il a expliqué les paraboles aux disciples. Marc dit en fait qu'à partir de ce moment-là, il ne parlait que par paraboles. C'était un jugement. Alors ne laissez personne vous dire que Jésus a raconté des histoires comme un moyen de rendre les choses plus claires pour les non-croyants. Il a raconté des histoires comme un jugement afin qu'il puisse communiquer la vérité clairement à son propre peuple et non à eux. La miséricorde était la suivante. Il ne leur a pas donné plus de révélations, les rendant plus coupables de leur rejet et aggravant encore plus leur châtiment éternel. Nous sommes donc à ce point depuis longtemps avec les Juifs, les chefs juifs, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes. Nous sommes là depuis longtemps, depuis de nombreux mois, mais il y a même de la grâce dans cette session finale, avant que Jésus ne disparaisse, pendant 3 mois, pendant cette dernière fois, durant son ministère public, avant la semaine de la Passion, car il les appelle à croire. Nous avons donc examiné cette rencontre. Il y en a beaucoup ici. La première chose que nous avons vue ici, il y a 5 scènes qui se déroulent. C'est la confrontation, au verset 22 à 24, où les gens se rassemblent autour des Juifs. Cette phrase de Jean se réfère le plus souvent aux dirigeants. Puis, les gens sont avec eux aussi. Ce sont des adeptes. Et bien sûr, il y en avait des dizaines de milliers réunis à la fête dans le temple, à ce moment-là. Ils ont posé la question. « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Il leur a dit encore et encore, et il leur a dit si clairement qu'il n'est pas seulement le Messie. Il leur a également dit qu'il était Dieu. Et jusqu'à présent, ils ont essayé de le lapider 3 fois depuis le chapitre 5. Ainsi, il leur a dit, c'est une chose hypocrite. La seule raison pour laquelle il pose la question est de l'exposer à dire quelque chose de blasphématoire, afin qu'il puisse le lapider sur le champ. Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Jésus répond au verset 25, et nous arrivons à la réclamation. Il réitère l'affirmation. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Même les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de cela, de la responsabilité humaine de croire pour être sauvé. Il y a aussi un côté divin, verset 26, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Il donne le côté divin. Vous ne croyez pas, et vous êtes responsable de cette incrédulité. Mais d'un autre côté, mystérieusement, vous n'êtes pas mes brebis. Si vous étiez mes brebis par le Père, vous entendriez ma voix. Vous me suivriez. Je vous recevrai. Je vous protégerai. Vous ne périrez jamais. Personne ne vous arracherait jamais de ma main. Et personne ne vous arracherait jamais de la main du Père. Verset 29. Puis il résume cela en disant, « Moi et le Père, nous sommes un. » En d'autres termes, nous sommes un dans cette opération divine de rédemption. Je suis impliqué dans la rédemption, dans le salut de la brebis, choisie par Dieu, au même niveau que Dieu lui-même. Il prétend être le divin sauveur, le divin rédempteur, Dieu lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. Bien sûr, leur réponse, comme nous l'avons vu la dernière fois, ils ont repris des pierres pour le lapider. Le temple était toujours en construction. Beaucoup de pierres. Ils ont saisi des pierres pour la 4e fois. Et Jean écrit cela dans les derniers chapitres, prêt à le lapider, pour avoir prétendu être un avec Dieu, par essence, et par l'œuvre du salut. J'appelle les gens au salut. J'attire les gens vers moi. Je leur donne la vie éternelle. Vous souvenez-vous du chapitre 5? Il dit, de même que le Père a la vie en lui-même, ainsi le Fils a la vie en lui-même. C'est Dieu. Celui qui ne reçoit pas la vie n'est pas de Dieu. Celui qui est la source de la vie est tout ce qui vit est de Dieu. Jésus dit, « Je donne la vie éternelle. Je suis la source de la vie, donc le Dieu éternel. » Ils ne se sont pas trompés sur ces affirmations. Ils savaient qu'ils revendiquaient la divinité. Ils savaient qu'ils prétendaient être l'égal de Dieu. Donc, immédiatement, nous partons de sa revendication à la fin du verset 31. Ils ramassent des pierres. Puis, au verset 32, vient leur accusation contre lui. Versets 32 et 33, c'est la section sur le blasphème. Jésus leur répondit, verset 32, les arrêtant dans leur élan, avec les pierres dans leurs mains. Ils les ont ramassées, ils les tiennent. Ils sont prêts à les renverser et à écraser sa vie dans une furieuse grêle de roches. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Le calme majestueux ici est vraiment incroyable, inébranlable, imperturbable. Il les arrête net dans leurs paroles violentes. Pas étonnant. car il a évacué le temple au début de son ministère. Il le fera aussi à la fin, et c'était plein de dizaines de milliers de personnes qui ont fui aussi vite qu'elles le pouvaient, simplement sous la menace qu'il symbolisait. Lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, la police du temple est revenue sans lui, et ils ont dit « Pourquoi ne pas l'avoir pris ?» Ils ont dit « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Ces paroles ont arrêté l'action. Aussi violents qu'ils aient été, aussi incontrôlables que soit leur colère, il les a arrêtés avec ces paroles. Leurs bras sont abaissés, apparemment, au verset 33, parce qu'ils parlent, et ils disent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Le calme absolu a apaisé la violence, maîtrisé la violence. Sa déclaration est sensée, raisonnable, rationnelle. Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres du Père. Pour laquelle d'entre elles me lapidez-vous? Du Père. Et la phrase clé. Nicodème avait dit au chapitre 3, « Personne ne peut faire les choses que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème savait que cela ne pouvait pas être satanique. C'était forcément divin. Il savait que c'était surnaturel. Cela devait venir de Dieu. C'était la conclusion évidente, à cause de la perfection morale de Christ, de l'absence de péché de Christ, de la magnificence et de la beauté des œuvres qu'il faisait. Il n'a pas fait de mauvaises œuvres, le genre de choses qui viennent de l'enfer. Il a dit ensuite, « Je vous ai montré de nombreuses bonnes œuvres, kalos, excellentes, nobles, belles, non seulement moralement bonnes, mais des œuvres d'une grande beauté. Ces miracles étaient des merveilles de joie, donnant la vue aux aveugles, faisant entendre les sourds, donnant une voix à ceux qui étaient muets, de nouveaux membres aux paralysés, de nouveaux organes aux malades, et une nouvelle vie aux morts. Des miracles sans précédent, d'émerveillement et de beauté. Alors, pour quelle bonne œuvre du Père me lapidez-vous? Cela les arrête tout simplement. Ils ont une réponse. Ils ont dit, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Nous te lapidons pour blasphème. » Cela est basé sur la loi mosaïque, qu'un blasphémateur devait être lapidé. Ils pensaient qu'ils accomplissaient leur devoir. Toi étant un homme, laissez-moi faire le point ici. Il y a des gens qui ont nié l'humanité du Christ, qui ont dit qu'il était une sorte de fantôme. Mais dans leur esprit, clairement, il était un homme. Ce n'était pas discutable. Ce n'était pas contestable. Tout le monde savait qu'il était un homme. Premièrement, Jean dit que si vous niez que le Fils de Dieu, le Messie, est venu dans la chair, vous êtes jugé par Dieu. C'est un homme. Il est né comme les hommes naissent. Il a vécu comme un enfant, un jeune homme, étant pleinement humain dans tous les sens du terme. Donc tu es un blasphémateur, parce que, étant un homme, ce qui n'est pas en cause, tu t'es fait passer pour Dieu, ce qui, dans leur esprit, est le blasphème ultime et extrême. Ainsi, ils sentent leur devoir religieux écraser sa vie à ce moment précis. Mais les pierres sont peut-être encore entre leurs mains. Mais, quelle qu'en soit la raison, aucune pierre n'est jetée. Cela doit être la contrainte très divine qu'il aurait imposée par le Fils de Dieu lui-même. Il les oblige à réfléchir. Il fait une chose vraiment intéressante avec leur propre loi. Regardez le verset 34. Soyons rationnels. Arrêtez la violence. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? C'est vraiment une chose intéressante. Il dit, pourriez-vous être objectif pendant une minute? Pouvez-vous juste réfléchir avec moi un instant? Pouvez-vous mettre de côté la fureur, l'émotion, la haine? Arrêtez-vous et considérez l'Ancien Testament. Pourquoi êtes-vous si enflammé quand je m'appelle Dieu, quand dans votre propre écriture, les hommes sont appelés des dieux? C'est sensationnel. Je veux dire, cela montre l'empressement mental de Jésus, qui serait sans égal chez aucun être humain qui n'ait jamais vécu, pour parcourir en un instant l'Ancien Testament et en arracher une partie obscure. Pas même de la loi et des prophètes, mais des psaumes. Revenez au psaume 82, car c'est ce qu'il a cité. Psaume 82. Le psaume 82 est un jugement de Dieu sur les dirigeants d'Israël. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se présente en Israël, et il n'est pas heureux. Il juge au milieu des dieux. Nous parlons donc de dirigeants. Au fait, les dirigeants étaient des juges. C'est essentiellement ce qu'ils ont fait. C'était des juges. Ils ont tranché les problèmes, résolu les problèmes. Il dit au juge, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Vous êtes corrompus. Vous aimez les méchants. À cause de votre corruption, vous avez une affinité pour les corrompus. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Vous êtes censé être leur protecteur. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Les plaignants, sauvez le misérable et l'indigent, sous-entendu de l'oppression. Délivrez-les de la main des méchants. C'est ce que vous êtes censé faire. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Écoutez, tout ce qui maintient la société se déchaîne, parce qu'il n'y a pas de justice. » Verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Que veut-il dire ? Il veut dire, regarde, petit Dieu, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les représentants du seul vrai Dieu. Vous êtes les agents de Dieu dans le monde. Vous êtes les fils du Très-Haut. Il vous a délégué l'autorité, et vous recevez sa parole. C'est ce qu'il est dit dans Jean 10. S'il les appelait des dieux auxquels la parole de Dieu est venue, c'était eux qui devaient enseigner, appliquer et soutenir la parole de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il y a de l'ironie et du sarcasme dans l'utilisation des dieux. Il peut dire, vous pensez être des dieux. Vous pensez que vous êtes plus que ce que vous êtes vraiment, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans l'Ancien Testament, Jésus dit, les juges corrompus étaient appelés des dieux, peut-être ironiquement, mais la parole a été utilisée pour eux, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils étaient les instruments de Dieu et les agents de Dieu. Il y a un sens dans lequel c'est vrai, avec un petit dé. Si ces juges corrompus pouvaient être appelés des dieux, s'ils les appelaient des dieux, Dieu lui-même, dans les Écritures, les appelait des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été donnée. Dites-vous de celui que le Père a mis à part et envoyé dans le monde. Tu blasphèmes parce que j'ai dit « je suis le Fils de Dieu » Vous voyez l'analogie. Faites une comparaison, dit-il. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, bien que vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres, afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi, et moi dans le Père. C'est un argument incroyable. Il va directement dans l'Ancien Testament pour plaider sa cause. Certes, si le terme « Dieu » peut s'appliquer aux dirigeants corrompus, ce n'est pas une limite pour que le Fils de Dieu incorruptible, parfait, sans péché, juste, soit appelé Dieu. Pensez à ce que vous faites avant de lancer des pierres. Pensez à ce que vous faites. Une note de bas de page. Dans cette rencontre, Jésus fait une déclaration étonnante que les traducteurs ont mis entre parenthèses au verset 35. C'est tellement unique que cela apparaît ici. Il dit « à qui la parole de Dieu a été adressée ». Et entre parenthèses, « et si l'Écriture ne peut être anéantie ». Il se passe plusieurs choses ici. La parole de Dieu et les Écritures sont parallèles. Avez-vous vu cela? Ce sont des synonymes. La parole de Dieu et les Écritures sont des synonymes. Par conséquent, l'Écriture est la parole de Dieu. Par conséquent, la parole de Dieu est l'Écriture. Le Saint-Esprit ici inspire Jean à écrire les paroles de notre Seigneur Jésus avec exactitude. Et le Seigneur Jésus assimile la parole de Dieu à l'Écriture, l'Écriture à la parole de Dieu. Maintenant, cette phrase a une importance énorme et massive, alors que dans la discussion, ce n'est qu'une note de bas de page, une sorte de digression. C'est un trésor qui doit être levé. Que veut-il dire? L'Écriture ne peut pas être anéantie. Le mot pour anéantir, ce n'est pas un mot comme anéantir en anglais. Le mot « luo » en grec est un mot grec très familier pour tous les étudiants grecs, parce que c'est le modèle des verbes conjugués. Alors, tout le monde connaît « luo ». « Luo » signifie « licencier »,« dissoudre »,« enlever »,« libérer »,« anéantir », »,« éliminer ». Alors, que dit notre Seigneur? Les Écritures ne peuvent pas être modifiées. L'Écriture ne peut pas être relâchée, libérée, supprimée, rejetée, annulée. Ce passage est le point de vue du Christ sur les Écritures, à savoir qu'il s'agit d'une chaîne sans faille, et où aucun maillon ne peut être retiré, pas un. Le passage lui-même du psaume 82 n'a aucun lien avec sa divinité, mais il utilise ce mot, Dieu, pour faire un point du plus petit au plus grand, comme très souvent les rabbins l'ont fait, et il l'a fait. Mais il s'arrête au milieu de cela et fait cette déclaration puissante et globale, selon laquelle les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Tandis qu'il est très occupé à prouver que sa prétention à la divinité est valide par ses œuvres, il n'essaie pas de prouver cette déclaration. Il ne le prouve pas. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Point final. Pourquoi ne le prouvent-ils pas? Parce qu'ils ne remettent pas cela en question. Ils comprennent cela. C'est une chaîne. Tous les liens doivent être en place. L'Écriture est le dernier mot, et ils le savaient. Vous ne pouvez pas altérer les Écritures. Vous ne pouvez pas anéantir les Écritures. En fait, il présente toute son argumentation sur un mot, dans un verset obscur d'un psaume. Vous ne pouvez pas toucher un mot. Vous ne pouvez pas prendre un mot pour le retirer, parce que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. De Timothée, c'est parce qu'aucune Écriture ne vient par une interprétation privée, mais que des hommes saints ont été poussés par l'Esprit de Dieu à écrire. 2 Pierre 1. Vous ne pouvez pas avoir une vision plus élevée des Écritures que celle de Jésus. Ainsi, chaque fois que nous discutons de l'autorité, de l'inhérence, de l'exactitude, de l'inspiration des Écritures, j'aime commencer par « Que pense Jésus des Écritures ?» Parce que je veux avoir son point de vue. Si vous n'avez pas son point de vue, je reste avec lui. Il y a un livre qui est sorti récemment, intitulé « 5 points de vue sur l'inhérence ». Il n'existe pas 5 points de vue sur l'inhérence. Il y en a un, puis il y a 4 mensonges. C'est soit inhérent, soit non. Il ne peut pas être changé. S'il est changé, il est changé. C'est une violation. Vous ne pouvez pas toucher un mot. Vous ne pouvez pas retirer un mot. Notre Seigneur, dans une discussion sur l'affirmation la plus sérieuse qu'il n'a jamais faite, base son argumentation sur un seul mot. Un seul mot. C'était sa vision des Écritures. Laissez-moi vous montrer une autre illustration. Revenez à Matthieu 22. Nous avons le temps de le faire. Croyez-le ou non. Matthieu 22, verset 23. Il s'agit des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'ils croyaient que les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ont été écrits par Dieu, et tout le reste de l'Ancien Testament était un commentaire humain sur les 5 premiers livres. D'accord? Ainsi, ils croyaient aux 5 premiers livres comme étant la parole inspirée de Dieu. Puisque Moïse n'a pas écrit sur la résurrection dans les 5 premiers livres, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils étaient très étroits, intransigeants, exigeants, conservateurs de tout ce qui faisait partie du système lévitique de la section mosaïque. Ils se considéraient comme les conservateurs de la vraie religion, rejetaient toute tradition orale, toute tradition écrite, toute tradition rabbinique. Tout cela, ils l'ont rejeté, chaque partie. Ils étaient des fondamentalistes purs et durs. Certaines personnes pensent que les Sadducéens niaient la résurrection parce qu'ils étaient des libéraux théologiques. Non, ils niaient la résurrection parce qu'ils étaient des hyper-fondamentalistes qui n'acceptaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors, en voulant tendre un piège à Jésus à propos de la résurrection, il lui raconte cette histoire folle de 7 frères. Car il y avait une loi dans l'Ancien Testament selon laquelle si un homme mourait, son frère, s'il n'était pas marié, reprendrait son épouse pour prendre soin d'elle. C'est ce que faisaient les frères. Donc, dans le cas de cette situation hypothétique, 7 frères. Le premier se marie et meurt, pas d'enfant. Le second se marie et meurt. Le troisième se marie et meurt. Jusqu'au 7e. Je dirais, franchement, les 4 derniers gars étaient stupides, parce que tout le monde devant eux est mort. Et il y a un dénominateur commun ici. C'est la même femme qui fait la cuisine. Mais de toute façon, ce n'est pas le but. Ils meurent tous. Donc, ils pensent que c'est tellement ridicule, parce que s'il y a une résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Jésus a dit, « Vous vous trompez. Vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Là, il retourne aux Écritures. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pas de mariage au paradis. Mais en ce qui concerne la résurrection, revenons à votre histoire stupide. Revenons à la résurrection. Concernant la résurrection, verset 31, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Laissez-moi vous ramener à l'Ancien Testament. Jésus revient directement à l'Ancien Testament. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il cite Exode 3:6, où Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela parle de quoi? Quand Dieu a dit que dans Exode 3, qu'Abraham était mort, qu'Isaac était mort, que Jacob était mort, s'il n'y a pas de résurrection, Dieu aurait dû dire, « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est pour dire qu'ils sont vivants. Et toute l'argumentation tourne non seulement sur un mot, mais sur un temps, le présent. Quelle était la vision de Jésus des Écritures? Vous ne pouvez pas enlever un mot. Vous ne pouvez pas toucher à une conjugaison. Puis une autre illustration. Matthieu 5. Le sermon sur la montagne. 5, 17 à 19. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Et c'est une forme de luo, ce même verbe. Ou pour abolir les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, jusqu'à la fin de la création telle que nous la connaissons, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Vous ne pouvez pas toucher aux mots. Vous ne pouvez pas toucher au temps des verbes. Vous ne pouvez pas toucher aux lettres. Entre parenthèses, verset 19. Celui donc, et voici le même mot, luo, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous voulez savoir qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Des gens qui modifient l'inhérence des Écritures et enseignent aux autres à faire de même. C'est effrayant. Et qui est le plus grand du royaume? Celui donc qui les garde et les enseigne sera exalté. Donc c'est la vision de Jésus des Écritures. Elles ne peuvent pas être modifiées. Maintenant, vous pouvez retourner à Jean 10. Alors, pourquoi ne pas aller à l'Écriture, penser objectivement, poser ses pierres? Penser objectivement que quand quelqu'un vient de Dieu et parle pour Dieu, il y a un sens dans lequel il pourrait être appelé Dieu, avec un petit dé, à cause de cette représentation. Si c'est vrai des hommes corrompus, combien plus est-ce vrai du Dieu incarné, lui-même parfait et sans péché? Je ne demande pas quelque chose qui ne peut pas être vérifié. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Faites un jugement objectif. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Ma déclaration, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, que nous sommes un, ce qu'il a dit au verset 30. Comment Jésus prouve-t-il qu'il est Dieu? Par ses œuvres. C'est un dernier appel. Croyez. Croyez aux œuvres, afin que vous puissiez connaître et comprendre. La seule façon de vivre éternellement est de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire qu'il est Dieu dans la chair humaine. C'est une dernière et gracieuse invitation. Vous pouvez m'appeler un blasphémateur à cause de mes paroles, mais vous ne pouvez pas m'appeler un blasphémateur si vous regardez mes œuvres. Elles sont toutes venues du Père pour honorer le Père. L'idée que je fais ce que je fais par la puissance de l'enfer est simplement une révélation de la corruption de votre propre cœur. Une dernière invitation gracieuse. Nous arrivons au verset 39. Voici la première réponse. Les conséquences. La scène finale des cinq scènes. Les conséquences. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. À ce stade, je vous ai dit que ce qu'il disait n'avait pas d'importance. Peu importait les appels qu'il avait lancés. Peu importait la miséricorde, la gentillesse. Ils étaient figés dans leur incrédulité. Ils criaient pour son sang, jusqu'à ce qu'ils voient les Romains le clouer sur une croix. Ils ont eu la même réponse qu'au verset 31. Cette fois, ils ont essayé de le saisir à nouveau, pour la même raison. Pour le lapider à mort. Il a disparu. Ils voulaient le capturer et le lapider. Ils allaient faire la même chose à l'apôtre Paul, où ils ont essayé de le faire dans Actes 21, au même endroit, dans le même temple. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Il dit cela au chapitre 7. Il le dit au chapitre 8. Il n'allait pas mettre la main sur lui pendant 3 mois, jusqu'à ce que le moment choisi par Dieu soit parfait pour la Pâque finale. Donc la première conséquence. Les rebelles sont à nouveau confirmés dans leur incrédulité accablante. Mais ensuite, il y a une fin délicieuse. Il n'y a pas que des rebelles, il y a des récepteurs de la vérité. Verset 40. Jésus s'en alla, et il est parti pendant 3 mois. Où est-il allé? Il est allé au-delà du Jourdain, jusqu'à l'endroit où Jean baptisait pour la première fois. Où est-ce? Un endroit appelé Béthanie, au chapitre 1, verset 28. La maison des pauvres, est-ce que cela signifie? Parfois appelé Betabara. Ceci était différent de Béthanie, qui était adjacente à Jérusalem, où vivaient Marie, Marthe et Lazare. Une Béthanie différente, donc. C'est là que Jean a commencé son ministère. Ainsi, là où Jean a commencé son ministère. C'est là que Jésus a terminé le sien. Il est donc retourné là-bas. Il y est resté jusqu'au chapitre 11, quand il est revenu pendant la Pâque, pour entrer à Jérusalem pour mourir. Verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle. Pourquoi Jean n'a-t-il pas fait de miracle ? Il n'était pas un apôtre. Les signes et les prodiges appartenaient aux apôtres. Il n'a fait aucun signe. Pourtant, tout ce que Jean a dit à propos de cet homme était vrai. Maintenant, voici un mandat pour un prédicateur. Nous ne faisons pas de miracle. Ce Jean ne fait aucun miracle. Mais tout ce que dit Jean à propos de Jésus-Christ est vrai. C'est ce qu'est le ministère. C'était vrai dans le cas de Jean. Jean-Baptiste était mort. Jean a eu la tête coupée. Mais ils se sont souvenus. Il se peut qu'il y ait eu une communauté de personnes là-bas. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui se sont attachés à lui et qui étaient toujours là et qui se souvenaient bien des nombreuses années que Jean a exercé son ministère. Je pense que Jean a montré dans l'Ancien Testament comment Jésus était le Messie. Jean était un prédicateur de l'Ancien Testament, indiquant l'accomplissement en Christ. Nous ne connaissons pas toute l'histoire du ministère de Jean, mais cela a duré plusieurs années. Ils sont venus et ils ont dit « Tout ce que Jean a dit à propos de l'homme était vrai. Ils ont entendu Jean, et ils ont vu Christ, et ils ont vu ce que Christ a fait. Ce sont les gens qui ont vu les miracles, et ont cru qu'il venait de Dieu, et le ministère de Jean se concrétise longtemps après sa mort. Il y a eu l'écho de ce qu'il avait dit à propos de Jésus, qui s'est avéré vrai par les œuvres de Christ. C'est bien de savoir qu'avant même de pouvoir télécharger les sermons, les messages des prédicateurs ont pu être mémorisés. En conséquence, plusieurs crurent en lui. À tous ceux qu'il a reçus, il a donné le droit d'être appelé fils de Dieu, même à ceux qui croyaient en son nom. C'est tout. C'est la révélation finale, publique. Jésus est resté là-bas avec ses disciples et avec les croyants rassemblés jusqu'à ce qu'il soit temps de retourner à Jérusalem pour mourir. La question impérieuse ici est évidente. Croyez-vous ? Croyez-vous que les œuvres de Jésus soient surnaturelles ? Ce n'est pas discutable. Si elles sont surnaturelles, elles devaient venir du ciel ou de l'enfer. Croyez-vous que Jésus fut un agent de Satan? Si ce n'est pas le cas, alors il devait être Dieu. S'il est Dieu, alors vous devez croire qu'il est celui qu'il prétend être. C'est un blasphème de le nier, de le rejeter, et cela vous coupe à jamais de la vie éternelle. Si vous croyez, vous recevez le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, une place dans la famille de Dieu, le don du Saint-Esprit, la promesse de la gloire éternelle, la félicité éternelle, la joie. Cela commence par croire en Jésus comme fils de Dieu. C'est l'Évangile, c'est le message chrétien, et il vient des Écritures, et les Écritures disent toujours la vérité. Père, nous te remercions car nous avons eu l'occasion ce matin de nous rassembler autour de ta présence, autour de ton trône, bien que ce soit dans une réalité et une dimension d'existence différente. Nous avons l'impression d'avoir été là-bas. Nous savons que tu rencontres ton peuple, que tu demeures dans leur louange. Nous te remercions pour le privilège de monter sur ton trône. Nous te remercions pour cette merveilleuse opportunité d'entendre à nouveau la parole concernant le Christ. Car la foi vient en entendant la parole concernant le Christ, nous dit Paul. La foi vient en croyant aux revendications du Christ et à l'œuvre du Christ sur la croix et à travers la résurrection. Ô Seigneur, je prie qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui, beaucoup qui entendent ce message, qui croiront, qui pourraient croire que les œuvres surnaturelles de Christ, et il y en avait tellement qu'elles ne pouvaient pas être écrites si tous les livres du monde étaient rassemblés à cette fin. Qui croirait qu'elles venaient de l'enfer, de Satan, alors que tout ce qu'il faisait était si bon, si noble, si excellent, si glorieux, si honorant pour Dieu? Il devait être ce qu'il prétendait être, le seul espoir de salut, le seul sauveur. Père, puisses-tu ouvrir le cœur de beaucoup pour qu'ils croient. Nous te remercions, Dieu, pour le privilège de t'adorer aujourd'hui, et que notre adoration continue pour ton honneur, pendant notre vie entière. Maintenant que le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, Jésus notre Seigneur, vous équipe en toute bonne chose pour faire sa volonté, en travaillant en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour toujours et à jamais. Et tout le monde a dit « Amen ».
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.